Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, intéressons-nous à une constellation qui est plutôt visible. Nous commencerons en fin d'été à pouvoir l'observer au petit matin, juste avant l'aube. C'est ma constellation préférée, à vrai dire. Il faut dire qu'elle était située juste en face de ma fenêtre pendant toute mon enfance. J'ai nommé la très grande constellation d'Orion. Orion est tout l'inverse d'une constellation circumpolaire, puisqu'elle est visible depuis les deux hémisphères. Elle est située sur l'équateur céleste, qui est la projection sur le fond du ciel de notre équateur terrestre. Orion est une grande constellation, très reconnaissable, à la fois parce que les étoiles sont très brillantes, mais aussi parce qu'elle est dans un coin un peu vide du ciel, il faut bien le reconnaître. Ces sept étoiles les plus brillantes forment un nœud papillon ou un sablier, très facilement identifiable. Les quatre étoiles très brillantes forment un grand rectangle, assez caractéristique, au milieu duquel se trouve un alignement de trois autres étoiles, la ceinture d'Orion, qui constitue une signature très remarquable. Le corps d'Orion est facilement visible. Il est marqué par les quatre étoiles brillantes qui ont toutes des noms. C'est dire l'ancienneté du repérage de ces étoiles. Ce sont, dans le sens des aiguilles d'une montre, Rigel, Saïf, Bételgeuse et Bellatrix. Les deux plus brillantes, Rigel et Bételgeuse, occupent respectivement les coins sud-sud-est et nord-nord-ouest. Ces deux étoiles sont très nettement colorées. Bételgeuse est rouge et Rigel est bleu. Au milieu du rectangle formé par ces quatre étoiles se trouve la ceinture d'Orion. Trois étoiles bien alignées et équidistantes, parfois appelées les trois rois. En dessous de la ceinture, dans de bonnes conditions, on voit l'épée d'Orion. Deux étoiles plus faibles et entre elles, une tache, un tout petit peu flou, qui est en fait une nébuleuse. La nébuleuse M42, la nébuleuse la plus visible depuis l'hémisphère nord. Orion porte aussi un arc qui est visible quand on a de bonnes conditions. L'étoile du milieu de l'arc est à peu près dans l'axe Bételgeuse-Bellatrix. Et à partir de cette étoile, on peut chercher un arc de la taille du torse d'Orion à peu près. Orion est très pratique pour repérer d'autres étoiles. En effet, en prolongeant la ligne de la ceinture vers le sud-ouest, on trouve Sirius, dans la constellation du Grand Chien. Vers le nord-est, on trouve Aldébaran, de la constellation du Taureau. Une ligne vers l'ouest Bellatrix-Bételgeuse indique la direction de Procyon, de la constellation du Petit Chien. Et une ligne partant de Rigel à travers Bételgeuse indique Castor et Pollux, les Gémeaux. Bételgeuse est l'un des sommets de l'astérisme du triangle d'hiver, avec Sirius et Procyon. Nous n'avons pas encore parlé de légendes liées à Orion avec son arc et son épée. Bon, vous devez déjà vous douter un petit peu de la thématique. Dans la mythologie grecque, Orion est le fils de Poséidon, le dieu des océans, et d'Euryalé, la petite fille de Zeus, maître de l'univers. Quand on sait que Zeus et Poséidon sont frères, on peut se poser des questions de généalogie. Bref, son ascendance divine le rend capable de marcher sur l'eau, sans qu'aucune goutte ne le mouille. Et il est si grand que lorsqu'il marche au fond des océans, sa tête dépasse toujours de l'eau. De plus, le géant est d'une force colossale, il est beau, il est fort, il est courageux. Après avoir perdu son épouse, Cydée, précipitée aux enfers parce qu'elle avait osé comparer sa beauté à celle d'Héra, la femme de Zeus, vous remarquerez qu'il ne faut jamais fâcher Héra, Orion quitta son foyer pour vivre une vie d'aventure et de chasse. Ce grand chasseur était d'une adresse si extraordinaire que jamais ses flèches ne manquaient le gibier qu'il traquait. Il était toujours accompagné de Sirius et de Procyon, ces deux chiens qui accouraient au premier coup de sifflet. Autant Sirius était puissant et de belle taille, autant Procyon était vif et alerte. Sirius et Procyon sont deux étoiles des constellations des chiens situées proches d'Orion. Dans cette version de la légende, Orion fut tué par le scorpion, qui a été placé à l'opposé de la voûte céleste par les dieux, qui les ont ainsi séparés afin qu'ils ne soient jamais au-dessus de l'horizon en même temps. La constellation d'Orion est aussi citée dans la Bible, dans les livres de Job et d'Amos. Avec autant d'étoiles brillantes, facilement visibles depuis l'hémisphère nord, Orion est peut-être la constellation la plus ancienne et de nombreuses civilisations l'ont tracée, quoique sous des images différentes. Les Sumériens y voyaient un mouton. Les Égyptiens le considéraient comme une offrande à Osiris, dieu de la mort et de l'outre-monde. C'est le sarcophage du dieu, figuré par la ceinture d'Orion, qui est veillé par les quatre fils d'Horus. En Chine, Orion est l'une des 28 Xiyu du zodiaque traditionnel chinois et est connue sous le nom de Shen, qui signifie littéralement 3. Peut-être en référence aux 3 étoiles de la ceinture ? Pour les Lacandons du Mexique, les 4 étoiles principales du baudrier d'Orion constituent la constellation du Pécari à collier. Revenons sur les objets célestes de la constellation d'Orion. D'abord, la nébuleuse d'Orion, connue aussi sous le matricule M42. Alors pourquoi un tel nom ? Il vient du catalogue des nébuleuses et des amas d'étoiles, établi juste avant la Révolution française par Charles Messier, afin d'aider les chercheurs de comètes à ne pas les confondre avec divers objets diffus dont la nature était encore inconnue, galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles, mais qui étaient fixes par rapport aux étoiles. Les objets référencés dans ce catalogue sont, depuis 1966, au nombre de 110. Chacun d'entre eux est appelé objet de Messier, et on les nomme dans l'ordre d'apparition dans le catalogue. C'est pourquoi le matricule de notre nébuleuse d'Orion est le M42, 42e objet du catalogue de Messier. Au siècle suivant, William Herschel et son fils établiront le nouveau catalogue général avec pas moins de 5000 objets. Certains objets sont dans les deux catalogues et donc ont un matricule en M en plus d'un matricule en NCG. Petite anecdote concernant le catalogue de Messier. Il se trouve que les 110 objets du catalogue de Messier ont la particularité d'être tous observables durant la même nuit, pendant quelques semaines, entre mi-mars et mi-avril. Les astronomes amateurs ont donc organisé une compétition amicale qui consiste à observer tous les objets du catalogue la même nuit. Le premier à avoir réussi cette épreuve fut l'amateur Jerry Ratley, dans la nuit du 23 au 24 mars 1985. Évidemment, ça nécessite un bon emplacement, une nuit sans lune, du beau temps, un peu de matériel d'observation, la liste préparée à l'avance des 110 objets avec toutes leurs positions précises, et à mon avis, pas mal de litres de café. Le catalogue de Messier est une bonne liste pour les astronomes amateurs qui désirent faire leurs premières observations stellaires. M42, ou plutôt la nébuleuse d'Orion, est donc une nébuleuse. Alors qu'est-ce que c'est une nébuleuse ? Ce nom veut dire nuage. C'est à partir du XVIIIe siècle que les progrès techniques sur les outils d'observation permettent de différencier les étoiles des objets diffus. On donne à ces derniers le nom de nébuleuse. Grâce au progrès constant des moyens d'observation du ciel, les astronomes du XVIIIe siècle se rendent compte qu'il existe de nombreux objets diffus qu'ils baptisèrent du nom de nébuleuse. Nous savons de nos jours que ces nébuleuses ne sont pas des objets tous de même nature. On trouve ainsi de simples amas d'étoiles, ou bien des nuages de gaz, et aussi des objets extérieurs à notre galaxie. Une nébuleuse, c'est toute une région du milieu interstellaire, particulièrement riche, soit en gaz, plus souvent de l'hydrogène, soit en poussière interstellaire, soit les deux. Ces nuages peuvent être invisibles, bloquant la lumière. On parle alors de nébuleuse obscure. Ça, c'est le cas dans notre constellation d'Orion. La nébuleuse à tête de cheval, qui est une nébuleuse sombre, située, d'un point de vue terrestre, devant une autre nébuleuse qui, elle, est visible. On peut donc observer ce nuage en forme de tête de cheval au bord de la ceinture d'Orion. D'autres nébuleuses sont visibles grâce soit à la lumière qu'elles émettent, soit à la lumière qu'elles réfléchissent. On parle alors de nébuleuses diffuses. Les nébuleuses par réflexion sont des nuages de poussière, comme les nébuleuses obscures, mais comme elles sont proches d'une ou plusieurs étoiles, elles réfléchissent sa lumière et elles deviennent observables. Les nébuleuses en émission, quant à elles, sont des nuages de gaz proches d'une étoile chaude, qui voient leur gaz ionisé, c'est-à-dire qui commencent à émettre de la lumière. Parmi ces nébuleuses en émission, on distingue plusieurs types. D'abord, les régions en hydrogène ionisé. Ce sont des régions d'activité intense où se forment des étoiles, comme la nébuleuse d'Orion en est l'exemple type. On peut aussi situer la nébuleuse de la Carène, la nébuleuse de la Tarentule dans le grand nuage de Magellan. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs années-lumière. À l'origine de ces nébuleuses, on trouve souvent des nuages moléculaires, des régions de l'univers où la quantité de matière, souvent de l'hydrogène, est plus importante qu'ailleurs. Mais tout en restant froid, quelques Kelvin tout au plus. Ces nuages moléculaires géants peuvent rester dans un état stable pendant très longtemps. Mais des ondes de choc provoquées par des supernovas voisines ou la collision entre des galaxies ou des interactions gravitationnelles ou magnétiques peuvent entraîner soudainement l'effondrement d'une partie du nuage, ce qui conduit à la formation d'étoiles via un processus d'effondrement et de fragmentation du nuage. Quand les étoiles en formation ont atteint une température suffisante, elles émettent des photons très énergétiques qui vont venir ioniser le gaz environnant. Celui-ci étant principalement composé d'hydrogène, on obtient alors un plasma qui émet un rayonnement coloré. D'autres nébuleuses sont appelées nébuleuses planétaires. Alors, il n'y a pas de planète là-dedans, mais c'est leur aspect assez compact qui a trompé les astronomes du 18e, qui les ont pris pour des planètes. Les nébuleuses planétaires sont en fait des coquilles de gaz en expansion, éjectées d'une étoile en fin de vie. Quand une petite étoile, c'est-à-dire moins de 8 fois la masse solaire, achève de consommer son hydrogène, puis son hélium, alors son cœur s'effondre pour former une naine blanche, tandis que les couches externes sont expulsées par la pression de radiation. Parmi les plus célèbres, citons la nébuleuse de l'Altair, l'anneau de la Lyre, ou encore l'œil de chat. Passons maintenant aux rémanents de supernova. Comme leur nom l'indique, ce sont des restes de supernova. Contrairement aux nébuleuses planétaires, qui sont des restes de petites étoiles, on parle ici de très grosses étoiles qui explosent avec une énergie incroyable et dispersent dans l'espace leur matière, sur plusieurs années-lumière. Parmi les rémanents de supernova les plus célèbres, citons les dentelles du Cygne, la nébuleuse du Crabe ou encore les piliers de la création dans la constellation de l'Aigle.